La Halte,
le podcast sur les friches artistiques de France par Agathe Gallo.
Après le lancement et la création de Quartier Libre, il est temps pour moi de vous faire découvrir ce qui me passionne depuis des années. Les friches artistiques, des lieux aux multiples facettes où bouillonnent créativité, partage, plaisir et liberté. Un podcast à la rencontre des friches artistiques de nos 13 régions de France et à bord d'un camion studio de radio. 13 régions, 40 friches artistiques, des rencontres, des interviews, des témoignages, une heure pour tout connaître des friches artistiques de France. Bienvenue sur La Halte. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce troisième épisode de La Halte. Aujourd'hui, je vous emmène au bord de la mer, à La Rochelle plus exactement, pour découvrir une salle emblématique, La Sirène, ouverte en 2011. Grand soleil, j'entends la mer au loin et je redécouvre ce lieu dans lequel je suis déjà allée plusieurs fois, mais cette fois-ci avec un œil bien plus observateur, et je constate à mon arrivée tous ces petits clins d'œil qui me font me dire que je suis bel et bien au bord de la mer et que La Sirène a bien trouvé son nom. Nous sommes dans le quartier de la Palisse, dans la zone industrielle de La Rochelle, quelque peu excentrée du centre-ville. Et je ne pensais pas que ce quartier avait une si belle histoire entre dynamisme et rupture. Et ils sont nombreux à nous en avoir dit quelques mots. David, directeur de La Sirène, Benoît, coordinateur des studios, et Vincent Coppolani, vice-président de la communauté d'agglomération de La Rochelle.
Alors bah c'est, là, on est vraiment assez loin de l'image que le tout public peut avoir de La Rochelle. C'est vrai que l'image qu'on a un peu tous en tête de La Rochelle, c'est les deux tours, le vieux port, un côté très atlantique, en même temps un peu bobo chic, peut-être un peu bourgeois, enfin avec tout ce passé aussi historique, commerce triangulaire, Bordeaux, Nantes, La Rochelle. Les grandes maisons des armateurs, enfin voilà, on a une idée peut-être un peu préconçue de La Rochelle, qui est beaucoup plus complexe que cette image très commune. Et donc là, on est vraiment un peu à l'opposé, puisqu'on est nous sur un territoire très urbain, très industriel, puisqu'on est sur le territoire du port de commerce, du port atlantique, avec une rue, un boulevard sur lequel s'est installée La Sirène, qui était à l'époque le boulevard de la Soif, avec sa quantité de bars à marins. C'était aussi le boulevard qu'on empruntait à l'époque, avant la création du pont de l'île de Ré, pour accéder au bac. Donc c'est un boulevard qui a été beaucoup emprunté. On est sur un territoire qui est fermé au public. La Sirène étant une enclave qui donne sur le port atlantique, qui est un port d'État, donc un port qui est fermé au public. Suite aux événements du 11 septembre, les Américains ont décidé de commercer avec les pays qui pouvaient offrir un maximum de sécurité dans les ports qui étaient visités par les bateaux qui assuraient tout le commerce maritime. Donc du jour au lendemain, après avoir vécu ce quartier, un premier traumatisme qui avait été la fin des chantiers navals, le deuxième traumatisme, ça a été que l'accès à la mer, au bassin à flot, l'accès aux meules d'escale pour aller poser sa canne à pêche, au territoire pour aller courir, pour aller voir les bateaux se charger en céréales, a été fermé. Et donc c'était un deuxième traumatisme pour le territoire rochelais. Et La Sirène a été un peu quelque part un point d'ancrage et d'échange entre le port atlantique et la ville, comme... Le bâtiment a été offert par le port à l'agglomération, donc ça a été comme un signal fort qui disait ben voilà, on vous rend un petit bout de territoire, d'où cette enclave, on vous rend un petit bout de territoire, et de ce petit bout de territoire, vous aurez un balcon qui vous laissera apercevoir encore l'activité portuaire. Donc on a vraiment été un peu ce tampon entre la population locale et puis bah, les instances portuaires. Ça a aussi été, La Sirène a aussi été le point de départ d'un renouvellement urbain. Pour bah, toutes les raisons qu'on connaît, le tourisme, le prix au mètre carré qui devient un peu, un peu inconfortable et un peu inconsidéré en centre-ville, bah c'est vrai que les populations ont eu plutôt tendance à venir s'installer dans les suburbs, dans les quartiers à proximité. Et la palisse a été, avec la sirène qui s'y installait, bah peut-être un peu à l'origine d'une certaine gentrification. Tout en gardant le charme de ce côté très populaire du quartier, avec le marché... Le marché dominical, qui est très bigarré, qui peut faire penser un peu au marché de Oisem à Lille, avec ses étals exotiques de nourriture, de produits. Enfin, voilà, un truc très, très populaire. Et avec toujours aussi ce café populaire qui est au cœur du marché, où là, c'est aussi un repère historique de la résistance des dockers, un rendez-vous des cégétistes, et aussi un lieu d'échange. Il y a toujours en filigrane cette espèce de territoire très popu qu'est la Palisse, et avec en même temps des populations qui viennent s'agréger à cette histoire-là, et la sirène qui est un peu une sorte de phare au milieu de tout ça. Et l'intégration s'est tellement bien faite que... on a vu pousser il y a peu de temps un bureau de tabac qui a changé de nom, qui s'appelait le bureau de tabac de la sirène. Et à partir de là, moi, je me suis dit, il y a 3-4 ans, ça y est, on est intégré au quartier. Même si on est un bâtiment d'agglo avec une volonté de servir l'ensemble des habitants de l'agglomération, mine de rien, on est quand même sur un quartier. Et le quartier de la Palisse, c'est un quartier avec un fort caractère. Et je trouve que c'est une des grandes réussites de l'équipe d'Archi. C'est qu'ils ont su poser au bon endroit un lieu qui allait avoir aussi du caractère, à la fois dans son architecture, mais aussi dans son propos.
Le quartier de la Palisse, c'est vraiment un quartier populaire depuis longtemps, quartier ouvrier qui a toujours quand même pendant longtemps été un peu délaissé. Je pense que là, c'est un quartier, nous, ça fait 10 ans qu'on le fréquente, qui est en pleine métamorphose. La sirène a contribué à cette métamorphose, mais pas que. Et on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de projets qui sortent. C'est en tout cas hyper agréable à vivre. Et on sent que le quartier évolue, que ça devient même... je pense que ça peut devenir un quartier qui va être un peu la place à être dans les années à venir. C'est comme ça qu'on le ressent un petit peu.
Et il faut avouer qu'en termes de situation, la sirène a vraiment participé à relancer un quartier, la Palisse en l'occurrence, qui était vraiment en perte de vitesse. Et la Palisse est devenue un quartier vraiment, je dirais pas en pointe de La Rochelle, peut-être pas encore, mais vraiment qui a regagné de la réputation, qui a regagné de l'activité. Et la sirène y est vraiment pour quelque chose.
Et avant que la sirène n'existe, cela faisait longtemps que les Rochelais attendaient un lieu comme celui-là. Et Daniel, président et fondateur de La Sirène, nous raconte ce long parcours avant d'arriver à cette ouverture tant attendue en 2011.
Donc c'est une longue histoire parce qu'en fait, le premier projet qui a été déposé pour faire une salle de musique est en 1989. Donc il a fallu beaucoup de temps. Et puis les planètes n'étaient pas alignées, on ne trouvait pas de lieu, d'endroit, etc. Donc on a commencé à se réveiller vraiment en 2007. Et en 2007, j'ai monté l'association qui s'appelle XLR. Alors, ça n'a rien à voir avec la prise, le câble, parce qu'il y a X dedans et LR comme La Rochelle. Donc, on a joué là-dessus, on a joué sur les mots, quoi. Donc, on a monté ça, on a fait 3 ans de concert à l'extérieur, on était nomades. Puis, en fait, on a conquis un peu le public et surtout les élus qui ont voté quasiment à l'unanimité la création de ce lieu. Voilà. Donc, qui a été ouvert, je ne sais pas si tu vas le savoir, le 1er avril 2011.
Une fois le projet ficelé et les tutelles prêts à voir se développer ce nouveau lieu, c'est l'agence Construire que j'affectionne particulièrement qui sera choisie pour réhabiliter cet ancien entrepôt à grains. Et je peux vous dire que c'est une sacrée réussite. La sirène est vraiment en tout point une petite merveille architecturale. Et on sent bien que l'équipe a su ajouter son grain de sel pour le rendre aussi pratique, accessible et adaptable. David, directeur de la sirène, nous raconte cette phase de création.
Donc le cabinet Construire, il a été désigné de mémoire en 2007. Nous, on est intervenu un petit peu après. Il se trouve qu'on les avait rencontrés puisqu'ils étaient venus, moi à l'époque je travaillais à Angoulême, à la Nef. Ils étaient venus voir à la nef comment fonctionnaient les studios, comment fonctionnait le quotidien d'une salle de musique actuelle. Donc on avait eu déjà l'occasion de se voir avant même qu'on soit désigné sous l'intitulé XLR. Ils ont été désignés dans le cadre d'une commande publique de la part de l'agglomération et d'un argumentaire très engagé, que ce soit politiquement. Bon, y a des phrases qui me restent en tête. Un lieu de culture au mètre carré ne doit pas coûter plus cher que le prix au mètre carré d'une habitation à loyer modéré. Donc ça, voilà, ça, en tous les cas, ça résonne, moi, en tous les cas, dans mon esprit. Ça dit des choses sur ce que sont nos lieux, ce qu'ils doivent être aussi au regard de la cité. Pas forcément des temples avec du marbre au sol et de riches matériaux au mur. Voilà, donc ça dit qu'on a été plutôt tourné vers l'économie, que l'argent a été placé aux bons endroits et que ça n'empêche pas d'avoir un lieu qui esthétiquement a de la gueule, fonctionne et en phase en tous les cas avec le propos artistique qui est tenu. Donc ils ont été désignés sur un argumentaire qui était un argumentaire forcément à la fois philosophique, éthique, politique. Ils ont été aussi désignés parce que je crois qu'en matière de réhabilitation de friches industrielles, que ce soit à Calais, avec ce qu'ils ont pu faire des abattoirs, cette transformation en lieu de spectacle vivant, plus tourné vers les arts de la piste notamment, ce qu'ils ont pu faire aussi au lieu unique, le Fèvre Utile à Nantes, ce qu'ils ont fait plus récemment effectivement aussi à Poitiers, montre qu'ils sont un peu, en tous les cas, pas les... sans doute les spécialistes français, peut-être au niveau européen, des gens très bien placés sur, à partir d'un existant, comment on réfléchit les choses pour que l'utilisateur ne soit pas totalement contraint, puisse s'adapter quand même à l'ossature générale, et comment l'utilisateur, en l'associant le plus tôt, en amont du projet, avant même d'attaquer les travaux, comment il arrive à coécrire ou en tous les cas accompagner le maître d'œuvre qui était le cabinet construire pour que demain l'exploitant, celui qui au quotidien y sera, soit le plus à l'aise dans sa façon de gérer l'établissement. Donc ça a été un enseignement quand même absolument formidable pour nous parce qu'on a eu droit au chapitre. Initialement, dans le programme, nous on a fait changer mais énormément de choses, ne serait-ce que les jauges. On était dans la grande salle à l'époque à 930 places debout, on est aujourd'hui à 1273. Tout ça, c'est pas fait par la magie d'un claquement de doigts, où on a juste redéfini les endroits où on pouvait implanter la scène. On a juste aussi expliqué à tout le monde qu'il y avait des règles de calcul qu'on connaissait bien, qu'on maîtrisait en fonction du nombre de sorties, du nombre d'UP, du nombre de mètres carrés exploitables au sol. Et on est aujourd'hui à 1273 places. De la même façon, le club qui aujourd'hui offre 400 places debout en partie intermédiaire du bâtiment, puisqu'il est installé sur trois plateaux de 1000 mètres carrés, ce club, initialement, il était prévu plus à destination des musiciens locaux pour y faire des petits showcases, des petits trucs, des petites représentations, quoi, sans trop d'ambition. Une fois qu'on s'est retrouvé dans le bâtiment, nous, on a tout de suite vu qu'il y avait la possibilité d'y implanter une vraie scène, un vrai club, avec la logique d'un vrai club, à savoir être en capacité d'accueillir 400 spectateurs, là où on nous en donnait 150, d'avoir un vrai plateau de 9 mètres par 5, là où on nous disait que, allez, avec cette vie praticable, on pourrait tout à fait accueillir les musiciens locaux. Tout ça a fait que la discussion a été possible, a été ouverte, et on a trouvé des solutions. Et aujourd'hui, on a un vrai club qui, moi, me sert énormément en termes de programmation, parce que ça donne la capacité à l'outil de se métamorphoser, d'accueillir de temps en temps certains concerts qui pourraient se dérouler dans la grande salle, mais qui ont plus leur place dans l'énergie, dans la musique jouée au club, de pouvoir le faire. Puis même sur certaines soirées comme aujourd'hui, d'investir les trois plateaux. Donc ça a été Donc voilà, c'est un travail hyper constructif avec à la finale un bâtiment qui nous ressemble, je crois, parce qu'on a pu aussi faire des propositions, on est associé au choix des couleurs sur les murs. Clairement, je me rappelle du discours, c'était on pouvait être un peu comme à la Nef, mais qui était une salle très rock, la Nef, tu vois, être sur deux couleurs, grosso modo white stripe, rouge, noir. Mais ça collait pas avec le propos artistique qu'on voulait défendre, là où on était, nous, à la Sirène. On a clairement dit, moi, dans le dossier, j'ai clairement écrit qu'on voulait que ce soit un lieu où il pouvait y avoir du reggae, du dub, des musiques expérimentales, mais aussi également du punk rock, mais aussi également du jazz, et pourquoi pas des musiques traditionnelles, et pourquoi pas... Donc être vraiment sur une ouverture la plus large possible du prisme des musiques actuelles. Donc on ne peut pas se contenter d'avoir des murs rouges et noirs. Donc... les murs, ils sont bleus, ils sont blancs, ils sont rouges, ils sont noirs, mais ils peuvent être aussi jaunes. Et ça colle vraiment mieux, à mon avis, en tous les cas, à l'esprit de la maison. Et c'est peut-être un peu moins connoté. En tout cas, ça donne peut-être une appropriation plus facile à des gens qui font du dub au même titre que des gens qui font de l'électro, parce que c'est un peu plus neutre, et en tous les cas c'est peut-être un peu moins connoté, un peu plus ouvert. Donc voilà le type d'endroit où on s'est retrouvé dans la discussion avec l'équipe de construire. Le lustre, ça a été une de nos propositions là aussi. C'est quand même un acte fort, hein. Le lustre, il est très présent dans la grande salle, tu l'as vu. Il n'y a eu aucune discussion ou remise en cause du lustre, parce que ça allait dans le sens de ce qu'on voulait raconter, et eux et nous, à savoir le ras-le-bol des concerts, où pour te signifier que l'artiste est sorti sur scène et qu'il faut que tu t'en ailles, on t'éclaire pleine face, on te met la lumière dans les yeux, et ensuite on envoie la sécu pour te foutre dehors. À l'opéra, on ne fait pas ça. Dans les théâtres, on ne fait pas ça non plus. Et de la même façon, un concert, je trouve qu'on a besoin d'avoir de ce sas que nous, on transforme par le biais du lustre pour une remise un peu en douceur à la vie réelle, la fin du concert. Ok, c'est bon, c'est fait, paf, on réallume gentiment et on n'envoie pas la garde montée pour dire aux gens de sortir. Bah, c'est des petites choses, hein, c'est des petits détails, mais c'est les petits détails qui, à mon avis, font aussi que le lieu trouve sa grammaire, trouve son écriture, peut-être son lien un peu fort qu'il peut avoir avec les spectateurs.
Et Cécile, responsable communication, ajoute.
On a eu la possibilité donc d'avoir des bureaux provisoires pendant les travaux juste à côté du bâtiment. Donc ça, c'était assez précieux de pouvoir être tous les jours au quotidien sur l'avancée des travaux. Ça nous a permis aussi parfois de rectifier des tirs, mais aussi justement de pouvoir essayer d'embarquer la population, le quartier, tout le local pendant la phase de travaux. Nous, on trouvait que c'était très important que... ce soit pas juste une ouverture et les gens doivent s'approprier le lieu comme si ça existait depuis toujours, mais plutôt d'essayer de créer une histoire autour de la construction de cet endroit. En plus, vu que c'est une réhabilitation, pour beaucoup dans le quartier, les gens connaissaient ce bâtiment qui n'avait pas forcément une activité. Ça faisait des années que le bâtiment n'était plus en fonction, mais il était là, il était vraiment dans le paysage. Donc le fait qu'il se modifie, parce que effectivement le cabinet construire a vraiment modifié le bâtiment. Quand on voit des photos de ce que c'était avant et quand on le voit aujourd'hui, c'est même difficile de voir comment ça a pu se modéliser ainsi. Mais donc c'était important et pour fédérer, mais aussi pour peut-être intégrer des gens qui aiment leur quartier. Il y a des gens qui aiment aussi parfois que les choses ne bougent pas. Donc c'est important aussi de leur montrer que, en fait, ça va aussi apporter du plus, que une réhabilitation, c'est pas transformer pour transformer, mais essayer de redonner une vie, peut-être à des bâtiments, justement, qui étaient un petit peu laissés de côté. Et donc Le côté réhabilitation, le côté seconde vie, c'est pour moi la définition peut-être la plus réelle du développement durable.
Une fois ce bâtiment terminé, place à l'ouverture. Une ouverture qui semblait être mémorable. Mathieu, Camille, Lucie, Benoît, Dimitri, Cécile nous racontent.
On s'en souvient tous vraiment comme si c'était hier, parce que c'était un moment effectivement très fort.
Et après l'avoir vu fini, c'était assez dingue de voir ce qu'ils en avaient fait en fait. Et après, c'était une bonne calotte hein, quand même, une bonne claque.
Je crois que ce qui est le plus impressionnant, c'est le jour de l'ouverture, quand on a ouvert, c'est d'un coup de voir, c'est l'investissement du lieu avec du public. Bon, c'est ça qui m'a plus, je crois que c'est une image, je m'en souviendrai toute ma vie, d'un coup, parce qu'il y a eu beaucoup de monde en plus pour l'ouverture, d'un coup, le millier de personnes à queue au bar, enfin... On prenait une...
Je sais pas, je crois que j'étais DJ, moi, sur le...
À l'ouverture,
devant le portail. J'étais pas encore embauché, je crois. J'avais un contrat de DJ juste pour... Donc, effectivement, ouais, arriver. Et puis, ce flux incessant, en fait, t'es là, mais ils vont jamais tous rentrer, quoi.
Oui, puis la queue au bar, tout. Puis même dans les loges, tout prenait...
Tous visiter. Moi, je me souviens là de les gens visitaient tout, même les toilettes, quoi. C'était... ouvrais la porte des toilettes, 20 personnes dedans pour regarder ce que c'était, comment c'était. Ouais, c'était très drôle. Ouais.
Et il se trouve que j'ai passé du temps sans voir, j'étais passé voir les premières pierres, mais vraiment quand j'ai vu quasiment fini la sirène, je me suis pris quand même une vraie claque entre ce qu'on avait dit au départ, le projet tel qu'il a été construit, et de voir là, cet ensemble comme ça, ce qu'on avait réussi, le parti pris, et puis grosse claque direct, je me suis dit qu'on allait avoir un super outil pour bosser.
Donc du coup, ça a été aussi grosse claque, en fait. Et surtout, tout de suite, j'ai ressenti une vraie âme dans ce bâtiment et une vraie énergie, en plus de celle de l'équipe. Et du coup, c'est hyper chouette de travailler dans un bâtiment comme celui-ci parce qu'on arrive à le défendre très facilement. Il y a vraiment quelque chose qui s'en dégage et les gens le ressentent, je crois.
Et c'est un lieu qu'on attendait depuis des années et des années en tant que vieux Rochelet.
On a vraiment... Donc fait une inauguration, justement, on n'avait pas choisi de prendre une grosse tête d'affiche comme on pourrait faire, mais plutôt de déjà montrer quelle allait être notre mission principale, à savoir l'éclectisme et surtout faire découvrir des musiques et déjà donner comme signal fort le fait de nous faire confiance. Et peut-être des affiches qui ne mettent pas un gros nom en avant, mais plutôt, on pouvait écouter autant du blues que d'une grosse électro, un petit peu bien indus avec Peaches, que des moments assez doux, rock'n'roll avec les Bell Rays. Et voilà, donc c'était pour nous un marqueur fort. Et on a eu beaucoup de monde, on a tout de suite senti qu'en tout cas, le public allait répondre présent. Et jusqu'alors, ils ne nous ont pas fait défaut, on est ravis. C'est une belle histoire.
Un peu plus de 10 ans après son ouverture, la Sirène propose aujourd'hui une ligne artistique à plusieurs volets, entre programmation musicale, action de médiation et lieu de création au service des artistes pour des résidences et des accompagnements.
À partir du moment où on ouvre des lieux comme ça et où on se dit qu'on va les faire vivre et qu'on va... on accepte la règle du jeu de se dire les musiques actuelles, c'est pas un prisme resserré, ça peut être un prisme large et il faut en tenir compte et puis... Et puis accepter effectivement cette dynamique là quoi. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est qu'on soit un lieu. Alors le mot est souvent je trouve assez mal traduit, mais moi j'aime bien l'idée qu'on soit un lieu populaire. J'aime bien cette idée là. J'aime bien que ce soit le lieu du peuple. Alors populaire, ça veut pas dire TF1 quoi. Ça peut aussi vouloir dire Arte. Ça peut aussi vouloir dire la 5. Il y a des bonnes émissions aussi sans doute sur la 5. Je regarde pas trop la télé, mais cette dimension-là, le fait que ça touche toutes les populations au sens large, qu'on puisse avoir des catégories socio-professionnelles un peu grand angle, ça aussi, c'est un peu au cœur du projet. En tous les cas, je crois qu'on a tous chevillé au corps et on vient tous de milieux suffisamment différents dans la boutique pour se dire que c'est cool quand même qu'on se retrouve autour d'un élément qui peut être la musique et que on peut avoir différentes places dans la société et on peut se retrouver autour d'un concert avec le même plaisir, la même joie à accueillir tel ou tel artiste. Donc ça pilote aussi quand même vachement nos actions. Et puis après il y a une notion qui moi me semble primordiale, on est en délégation de service public. Et ça pour moi, je trouve que c'est le nom même traduit beaucoup de notre lien aux politiques et notamment notre premier financeur, à savoir l'agglomération. Ça revient à dire que la question des musiques actuelles, pour la diffusion, la création, les concerts et tout ça, c'est traité au même titre que le transport en commun, ce qui nous concerne tous, à savoir... nous, citoyens de l'agglomération de La Rochelle, on a des questions sur le transport, les transports en commun, on a des questions sur des lieux de loisirs comme les piscines. Mais la question des musiques actuelles, l'agglomération ne sachant pas répondre directement, ils ont décidé de signer une délégation de service public avec des gens dont c'est le métier pour répondre à toutes ces questions. Je trouve que c'est magnifique. Enfin, ça veut dire que... Ça va faire à peu près une petite trentaine d'années que je fais ce métier-là. Il y a 30 ans, le ministère de la Culture ne reconnaissait pas nos actions. Il fallait qu'on aille frapper à la porte du ministère de la Jeunesse et des Sports pour obtenir 3 francs 6 sous. On jouait dans des lieux... Moi, le premier festival que j'ai monté, on le montait dans une salle de sport. Donc autant dire que l'acoustique était absolument magnifique. C'était hyper pratique parce qu'il fallait tout ramener, il fallait occulter les fenêtres avec des rideaux, enfin il fallait installer des loges dans la salle de ping-pong. Enfin, c'est à des établissements comme les nôtres, tout le monde était bénévole à l'époque, à des établissements comme les nôtres aujourd'hui où il y a des salariés, il y a des compétences, il y a des savoirs, il y a et une activité qui est prise en compte par les pouvoirs publics. C'est-à-dire que c'est important que les musiciens locaux puissent répéter dans de bonnes conditions. C'est incroyable que le mec qui n'a pas les moyens de se payer une batterie, il peut quand même répéter parce qu'il y a les batteries sur place. Le mec qui n'a pas les moyens d'avoir le bon ampli, il peut en tester plein ici et puis essayer de trouver celui. Et peut-être qu'il pourra travailler un poil l'été, le jeune, pour se payer son ampli de rêve qu'il aura testé à la sirène. Mais en attendant, il peut quand même répéter parce que l'ampli, il est là. Il pourra même avoir les conseils de musiciens qui sont les régisseurs, qui eux sont des pros de la musique, qui tournent, ils enregistrent des albums, ils pourront même lui dire, tiens, c'est pas ton ampli, tu peux le régler comme ça, et tu auras un son qui aura un meilleur grain et tout ça. Et puis après, il y a un autre axe, c'est qu'on est aussi un laboratoire, et on a un laboratoire de premier niveau, avec les 5 locaux de répète, donc c'est un laboratoire au quotidien, où des très bons côtoient des très mauvais, encore faut-il s'entendre sur une échelle de valeur musicale, mais où des générations se côtoient. Alors, il n'y a toujours pas assez de filles dans les studios. Ça, on en fait tous le constat. Et il va bien falloir qu'à un moment donné, on arrive à dire aux filles, la musique dans les locaux de répétition, les amplis, c'est pas que pour les mecs. Enfin, Pete Gervais a ouvert la voie. Patti Smith vous en a montré une autre. Et puis, il y a toute une génération quand même de filles qu'on voit maintenant sur les scènes. Donc, j'espère que l'exemplarité des concerts avec des filles sur les plateaux va donner envie le plus possible aux filles de venir pratiquer la musique. On attend tous que ça. Et on est un lieu de création donc, de premier niveau, avec ces locaux de répète, qu'on fasse une chanson mal aboutie, mal ficelée, chantée d'une façon pas forcément accordée, mais c'est pas grave, en tous les cas, c'est jusqu'au niveau le plus haut, puisqu'on est aussi un lieu de travail, de création pour les résidences, avec plein d'artistes, de renom ou sans renom, mais en tous les cas, les gens qui viennent créer leur spectacle dans les murs, qui rencontrent l'ensemble de l'équipe. Moi, je suis le plus heureux des hommes quand je vois des musiciens connus ou inconnus discuter avec les régisseurs, discuter avec Lolo et Jean, nos cuisiniers, boire un coup avec le barman, enfin... Tout ça participe, discuter avec Cécile ou Camille de la prod, ou avec Lucie, enfin, tout ça participe aussi au fait que ce soit un laboratoire, un lieu de création, où se font et se défont des projets musicaux croisés, intéressants, excitants, peu excitants, et qu'on accompagne, qu'on essaie d'accompagner en tous les cas, puis c'est le cas de la journée d'aujourd'hui, là on a 27 musiciens ou artistes qui sont accompagnés de façon très différente les uns des autres par la sirène, mais qui ont, je crois, beaucoup de plaisir à se retrouver en tous les cas ce soir pour défendre les couleurs un peu de cette salle, et ils se sentent chez eux. Et ça, c'est le principal pour moi, c'est le nerf de la guerre, quoi.
Alors l'idée, dans tous les cas, déjà dans la médiation, c'est un vrai travail en fait en réseau. Avec qu'on tisse au fur et à mesure, c'est des vrais liens pérennes qu'on essaie de mettre en place avec des acteurs du territoire. Donc on travaille beaucoup avec le milieu éducatif, mais aussi social et socioculturel. Donc ça, en fait, on s'attache à essayer d'embarquer avec nous toutes les petites âmes un peu créatives, et pas créatives du tout, dans des aventures artistiques qui sont faites un peu au long cours. L'idée, c'est qu'on défend moins, effectivement, des projets très rapides. On aime beaucoup prendre le temps, en fait, avec les gens, parce que si ça prend du temps, en vrai, de rencontrer les gens et d'essayer de s'adapter un petit peu à ce qui, à la fois leurs attentes, et puis bah, nous aussi, ce qu'on a envie de défendre. Donc du coup, voilà, l'idée, c'est vraiment de les embarquer dans des aventures un peu comme celle-ci, et puis de prendre le temps avec eux, en fait, de leur faire découvrir des lieux, nos métiers, et puis de les faire pratiquer. Voilà, c'est surtout ça en fait qu'on essaie de défendre, c'est beaucoup la pratique. Du coup, en direct aussi, en lien avec le quai, avec les régisseurs et puis avec Dimitri, on met en place des ateliers et des rencontres pour être directement en lien avec les artistes et puis bah, les faire venir dans le lieu surtout.
Des ateliers qui sont par rapport à la pratique, donc ça va être du perfectionnement sur son instrument, ça peut être aussi par rapport au son, par rapport aussi à la fabrication de choses, de pédales d'effet, de pédales board, enfin voilà, de plusieurs choses comme ça. Et ça peut être aussi des rencontres, pas mal de rencontres aussi qu'on essaie de provoquer en amont des concerts pour ça permet de connaître un peu la vie un peu de chaque artiste. Et après bah il y a pas mal d'intervenants qui viennent chaque trimestre pour apprendre des choses comme sur la MAO, voilà, il y a toute une programmation chaque trimestre en lien avec la programmation, voilà, ce qui permet aussi de voir un concert après l'atelier. Alors des fois ça peut être l'artiste qui vient faire l'atelier ou la rencontre et qui joue derrière, ou des fois voilà, c'est dans la soirée, dans le prolongement de la soirée, et ce qui permet aussi de donner une dynamique, de faire vivre le lieu sur le côté transversal, quoi.
J'ai pu passer pas mal de temps au quai. Le quai, c'est le sous-sol. Pas le sous-sol bien glauque, sans lumière. Le sous-sol dans lequel tu te sens vraiment bien et où l'aménagement a été pensé à la perfection. C'est l'espace réservé aux artistes en résidence et où les artistes de la région peuvent répéter dans des locaux de répétition entièrement équipés et où ils peuvent profiter d'un studio d'enregistrement. Et attention, il y a même des fenêtres, des grandes fenêtres qui s'ouvrent, et ça, c'était une des premières fois que j'en voyais dans des locaux de répétition. Et pour en parler, qui de mieux placé que Benoît, coordinateur des studios, et Dimitri, régisseur studio ?
Alors le quai, on est vraiment au niveau de la mer, pour situer là, en face de nous, on voit la mer, on voit l'activité portuaire. C'est un peu l'espace qui paraît un peu le plus brut du bâtiment, parce qu'on parlait de Patrick Bouchard, il aime bien garder le côté brut du bâtiment, on le retrouve vraiment ici avec des poteaux qui sont restés un peu dans leur jus, des gros piliers. Et pour autant, on a 5 studios de répétition qui sont neufs, qui sont des studios de répétition normes, acoustiques, dernier cri, hyper agréables, fonctionnels à vivre avec une ouverture sur le jour, sur l'extérieur. On a aussi une régie d'enregistrement. On a également des containers qui sont là, qui sont posés, une bande d'accueil pour les studios. C'est un container qui est découpé. La régie d'enregistrement, ce sont aussi des containers. Là, c'est vraiment pour rappeler un peu l'esprit portuaire. On a aussi un endroit qui est très stratégique pour nous, la sirène, c'est que le catering se situe au niveau du quai. Pour nous, c'est pas du tout anecdotique. On tient beaucoup à ce que le catering soit réussi. On a toujours eu des très bons chefs cuistots, on va dire, qui sont passés là, et c'est encore le cas aujourd'hui. Et voilà, on a une laverie aussi, on a des espaces de stockage. Donc c'est un vrai lieu de vie, puisqu'on est ouvert du lundi au dimanche sur la partie du quai, et on a environ 500 musiciens qui fréquentent le lieu et qui peuvent croiser un Dominica, un Big Flo et Oli, un Philippe Catherine en résidence ici, qui peuvent déjeuner là, être sur la terrasse. Voilà. Alors sur l'accompagnement, on peut dire qu'il y a deux niveaux d'accompagnement. Il y a déjà vraiment l'accompagnement de la pratique amateur. C'est-à-dire que tout musicien qui franchit la porte des studios est susceptible d'être accompagné. C'est le parti pris qu'on a fait avec, comme on disait, avec les régisseurs qui sont là. notamment Steve qui va être davantage sur l'accompagnement et de la pratique amateur, déjà commencer à donner des petits conseils au groupe qui commence à faire quelques dates, des choses. Enfin voilà, donc on essaye via les ateliers qu'on fait aussi de bouleverser un peu, par exemple l'espace en bas en enlevant le catering pour mettre une scène une fois par trimestre, où là on intervient auprès des musiciens amateurs confirmés, on va dire, sur des petits conseils sur le son, la gestion du plateau, faire 20-25 minutes de showcase, et puis après avoir un temps de débrief avec un ingénieur du son renommé, et puis poursuivre après avec de l'enregistrement, mais toujours dans un souci de pédagogie pour qu'ils apprennent, voilà, qu'ils progressent dans leur pratique. Et puis après, on a un autre niveau d'accompagnement qui est l'accompagnement à la professionnalisation. Donc là, c'est réservé à quelques musiciens, un groupe, artistes, chez qui on sent un vrai, on va dire, potentiel, une motivation. On sent aussi qu'on peut aller plus loin avec eux. Et là, on essaye de mettre en œuvre plusieurs outils, du temps passé avec eux pour les aider en tout cas à franchir les différents paliers, pour qu'ils puissent vivre un petit peu en tout cas de ce travail-là. En tout cas, de trouver un entourage professionnel après pour qu'ils puissent voler de leurs propres ailes en dehors de la sirène.
Et cet accompagnement d'artistes locaux, on a pu le voir notamment sur cette soirée d'ouverture de rentrée à laquelle j'ai pu assister. Ils étaient plus de 28 formations et près de 70 musiciens au total à se produire sur cette soirée du 24 septembre dernier. Et ça se passait un peu partout dans le lieu. Sur des scènes extérieures, en passant par le club, la salle et en allant même jusqu'à la cage d'escalier. J'ai été épatée par la diversité de public qu'on pouvait voir sur cette soirée.
Je suis Jackie Marchand. Pendant longtemps, j'ai dirigé la Coursive à La Rochelle, la scène nationale. La sirène, j'y suis un spectateur. Là, il y a plusieurs choses. D'abord, aujourd'hui, c'est un jour d'ouverture. Donc, il y a aussi de la curiosité. C'est un lieu donc de promenade. C'est les gens qui viennent. Enfin, son environnement, c'est un signal aussi quand même dans la ville. Mais aussi parce que c'est le travail, c'est le boulot, c'est le résultat du boulot d'une équipe autour de David Fourier, un savoir-faire, un savoir-être surtout. Hein. C'est-à-dire, on ne fait pas de la pub, la com, c'est aussi c'est parler avec les gens, c'est être attentif, c'est susciter la curiosité. Effectivement, une porte ouverte, c'est susciter encore beaucoup plus de curiosité. Et ce mélange-là, ça marche d'une certaine manière. Des gens qui en ont entendu parler, des gens qui viennent pour la première fois. Moi, je vous dis, j'amène quelqu'un qui n'est jamais venu ici, qui connaît tout le monde du milieu artistique, bien entendu, pour autant. Et voilà. Donc, c'est touchant. Votre émotion, je la partage complètement, puisqu'on essaye de faire ça, en plus. Donc, beaucoup de monde, d'accord, mais qui? Il y a des festivals, ils peuvent faire 100 000 spectateurs avec 5 000 individus. C'est ni bien ni moins bien, c'est comme ça. Mais après, avoir beaucoup de monde sur une durée, dans une ville moyenne. La Rochelle, froisser personne et pas les élus de la ville. Mais enfin, bon, c'est une petite ville, quoi. C'est une petite agglomération. À 3 km d'ici, on est dans les champs ou dans les marais. Hein. Et de l'autre côté, c'est la mer, c'est une moitié d'orange.
En fait, je pense que par rapport à toutes les actions qu'on fait, par exemple, justement, par rapport aux rencontres, aux ateliers, à la médiation, il y a aussi ce côté où ça rend les choses un peu dans l'humain, même les rencontres avec des artistes et des choses comme ça. Donc voilà, et petit à petit, il y a aussi, pour moi, c'est le côté humain, c'est de casser un peu ces choses un peu de concert où on arrive dans une salle, où on voit un concert. Je pense qu'aussi, il y a toute la partie, justement, un peu, on va dire, sociale et pédagogique qui est assez importante et qu'on développe justement pour montrer que, voilà, que c'est pas élitiste et qu'on ouvre aussi les choses. Voilà, d'autres horizons, d'autres envies, un public plus large, voilà. Et donc voilà, on essaie au moins de pouvoir toucher un public différent et tout type de public. Mais après, il y a encore du boulot.
La sirène, c'est un lieu où les artistes se sentent chez eux. Et c'est le cas pour Diwe et Tonton J, mais aussi pour Saint Graal, qui venait de passer quelques jours en résidence. Et ils en disent quelques mots.
Alors voilà, ça c'est mon collègue, il s'appelle Diwe, donc c'est son nom. C'est pas son prénom, parce que son vrai prénom c'est Gwendal.
Alors j'ai oublié son prénom, ça fait pas très longtemps qu'on fait du son ensemble, juste quelques années. Je l'appelle Don en général, parce que c'est trois lettres, c'est court, c'est facile à retenir. Et comme il dit, on a commencé le rap pas pour faire de la musique, il n'y a aucun rapport à la musicalité, c'est vraiment une manière de se battre en fait, de lutter contre la vie, qui est assez cruelle au final. Du coup, c'est notre manière à nous de se défendre. On rappe.
Salut, je me présente Tonton G, c'est-à-dire T-O-N-G-2-E, et G2 pour ces dames. Donc expliquez-moi le thème et pourquoi je suis là. Et pourquoi vous m'introduisez dans ce micro. Alors en fait, on a avec Jiwei, du coup, que vous avez eu tout à l'heure au téléphone. On a participé à l'ICO quand on était au lycée, c'est un concours interlycéen, je sais pas si vous connaissez. Parfait. Et donc on s'est fait repérer par la sirène en 2014 je crois, non en 2015 sur 2016 et puis on a commencé à du coup à être un peu épaulé par eux, on faisait partie de leur poulain, c'est ce qu'ils disaient. Et du coup en gros ils nous ont mis à disposition des studios, ils nous ont calé des heures etc, ils nous ont vraiment accompagnés à fond. Et du coup en fait la sirène c'est une famille pour nous quoi, clairement c'est pas juste une structure et c'est, par contre c'est un truc de ouf quoi. La sirène, c'est des gens adorables. Enfin, au-delà de ce qu'ils vous présentent, c'est des gens vraiment avec un cœur énorme. Voilà.
Faites du bruit pour DJ Poise, bordel ! Faites du bruit pour la sirène qui organise cette bête de soirée, là ! Faites du bruit pour les prochains artistes ! Et faites du bruit pour vous ! Merci beaucoup. Ciao.
Alors je me présente, je m'appelle Saint Graal, mais on peut aussi m'appeler Léo, il n'y a pas de souci là-dessus. Du coup je suis à la sirène, je viens juste de faire un concert, je viens juste de terminer, donc je suis transpirant devant ce micro. Et j'étais là pendant 3 jours à la sirène en résidence, à travailler les nouveaux sons, à travailler les nouveaux sons qui vont sortir dans l'EP prochainement, voilà. Donc c'est chouette, il y a un pur accueil, il y a vraiment une ambiance qui est ultra cosy. Et voilà quoi. Je vante aussi un petit peu le mérite de la sirène parce que vraiment ils ont été adorables de A à Z. Et puis voilà, ils m'ont mis avec un petit ingé son qui s'appelle Erwan, qui est trop mignon. Et voilà.
Je veux passer ma vie avec toi, faire du jet ski sur des dauphins, chevaucher aussi les requins, faire l'amour sur la plage entourée de coquillages, rider le dragon jusqu'au bord de l'océan, grimper le donjon en traversant les volcans. Je serai ton pirate, si tu es le feu, je serai la vague, t'es de toute beauté, mon amour, ma chérie, si je suis le ciel, tu météorites. Si tu es le volcan, je serai la lave, si tu aimes le BDSM, je serai ton esclave, t'es de toute beauté, mon amour, ma chérie, si je suis le ciel, tu météorites.
Alors projet Saint Graal, ça a commencé il y a officiellement 3 ans, il y a officieusement 5 ans. De base, j'avais créé ce prénom parce que j'étais fan de Saint-Germain. C'est un artiste qui fait l'électro-jazz, que je kiffais beaucoup. Et parce que je kiffais les Monty Python avec un ami à moi. Et du coup, Saint Graal, c'est apparu comme ça. Je faisais DJ set d'abord dans les boîtes de nuit, dans les bars, les restos, là où je pouvais. Et j'ai toujours chanté. De base, j'ai fait de l'opéra pendant 4 ans, ce qui fait que moi, j'aime bien. Enfin, j'ai toujours eu cet attrait pour le chant vraiment vénère, quoi. C'est pour ça qu'en concert, je me réserve des petites lignes où je vais faire de l'impro, où je vais faire les envolées lyriques un peu. Je trouve ça assez stylé avec un beat un peu house et tout. Et du coup, j'ai mélangé un peu tout ça avec l'électro comme je kiffe, du O2N, du. Ça peut être du Ento, ça peut être du French 79, hein, toutes ces petites pépites électro assez. Voilà. Et là, depuis quelques temps, avec le confinement, en fait, je commence à faire des vidéos sur les réseaux, notamment sur TikTok, sur Insta et tout. Pendant que je taffais, à l'époque j'étais aide-soignant et je taffais avec des handicapés, mentaux ou moteurs. Et vu que c'était pas très drôle ce moment-là, début du Covid et tout, je me suis dit vas-y, faut que je fasse mes sons, je les sorte, j'ai rien d'autre à foutre. Je venais de sortir un EP au moment du Covid, donc ça a fait un flop total. J'étais en mode yes, aïe, super, j'adore. Et on venait juste de faire un pop-up à Paris rempli, on était en mode comme des ouf, on était en mode ça y est, ça va partir. Pas du tout. Il y a eu mon meilleur ami de Covid, mais au final. Ça a été archi bénéfique parce que j'ai sorti mes premières vidéos sur les réseaux et la première, ça a genre 20 000 vues. J'étais en mode genre, oh, j'étais en mode wesh, c'est incroyable, c'est trop facile TikTok et tout machin. Après, bon, ça a été du 10 vues, après c'était cool. Et d'un coup, ça a augmenté. Puis moi, ça me faisait du bien en fait de me lâcher. C'était vraiment honnête et puis je suis assez à l'aise avec les réseaux, j'aime bien ça et je suis vraiment sans filtre, vraiment quoi. Et je me suis lâché petit à petit, j'ai fait des sons un peu plus trash et tout, mais gaulerie quoi. Et les gens ont adhéré de plus en plus. Et en août dernier, j'ai sorti un son sur la plateforme qui s'appelle Les Dauphins, sur TikTok. Et là, genre, j'étais au chiottes, au taf, vraiment, quoi. L'histoire est très glamour, hein. Et je la poste la vidéo et je ressors du taf et je vois plus 1 million de vues. Je fais genre wow. Putain, alors là je fais ouais c'est. Et je vois que bah pareil les abonnés ça grimpe de ouf et j'ai une pression, je me dis bon bah vu le nombre de messages que je reçois, il va falloir que je sorte les morceaux quoi. Du coup je l'ai sorti et ce qui est assez ouf c'est que les gens ont suivi derrière sur les plateformes, sur Spotify, tout ça. Et rien que pour ça je me dis bon bah je leur dois de proposer des lives qualité et essayer de faire le max parce que c'est bah. C'est grâce au public quoi. C'est pas grâce aux pros, c'est pas grâce à un entourage professionnel, c'est vraiment grâce à des gens que je pourrais croiser à droite à gauche et qui sont super quoi.
Et pour rendre tout ça accessible, c'est une politique tarifaire plutôt alléchante qu'on nous propose à la sirène.
Donc là aussi, on a essayé d'être imaginatif, hein, parce que tout existe déjà. Donc après, il faut piquer les bonnes idées aux bons endroits. Hein. Et ça en génère des bonnes qui sont repiquées aussi à leur tour. Donc c'est vrai que la politique d'abonnement, qui est plus une politique d'adhésion d'ailleurs aux propos, parce que... On reste toujours sur un rythme trimestriel de programmation. L'idée, c'était de se dire que, comme tout le monde, on constate bien que c'est plus difficile, les spectacles découvertes, avec des gens qui ne sont pas forcément connus, pas médiatisés, qu'on n'entend pas sur les ondes. Et la petite technique qu'on a essayé modestement de mettre en œuvre, c'est de se dire que les gens qui prenaient une carte d'adhésion étaient invités à 2 concerts par trimestre. 2 concerts qu'on flèche. Bien évidemment, toujours dans cette espèce de logique d'être grand angle, on ne va pas faire 6 concerts par an de rock offerts pour... on va essayer de doser un concert de blues, un concert de hip-hop, pour essayer aussi de faire que le panel le plus large possible soit touché par notre campagne d'adhésion et adhère à notre structure. Alors, on prend sa carte d'adhésion, elle vaut entre 15 et 20 balles, et on a ces 2 concerts-là, plus les réductions de 3 euros par concert, plus, parce qu'il y a le petit plus, toutes les sorties de résidence auxquelles on a invité. On a une super carte qui doit valoir de mémoire 300 balles et qui te donne accès à toute la programmation de l'année. Donc ça veut dire que tu as la capacité à venir à entre 60 et 70 concerts par an. Donc si tu le divises par 300 divisé par 7, ça te fait un prix de revient au concert qui est vraiment dérisoire, quoi. Bon, on peut payer en plusieurs fois, hein, quand même. Hein. C'est une politique qui tend à effectivement vouloir fidéliser le public et puis lui donner envie d'être un petit peu curieux.
Comme le disait David, la Sirène est une délégation de services publics avec l'agglomération de La Rochelle qui est propriétaire du bâtiment. Et à cette soirée de rentrée, j'ai eu l'occasion de rencontrer Vincent Coppolani, vice-président de la communauté d'agglomération de La Rochelle, et Catherine Benguigui, adjointe au maire de La Rochelle en charge de la culture, qui ont pu nous dire quelques mots de La Sirène.
La Sirène a vraiment su faire la preuve de son dynamisme, de son utilité, et elle est en passe de devenir une des scènes majeures, non pas seulement de l'agglomération, hein, d'un équipement majeur de l'agglomération, mais je pense bien au-delà de l'agglomération sur l'ensemble de la France. Il y a quand même des projets de développement de la Sirène qui ont une importance qui dépasse largement le cadre de l'agglomération, même du département.
La Sirène, pour moi, d'abord c'est une interface entre la ville et le port. C'est un bord d'eau, en bord de ce port, partie intégrante du port, puisque c'était un bâtiment industriel qui appartenait au port ici. Et c'est aussi une interface entre plein d'acteurs, parce qu'en fait, la Sirène, d'abord, elle est fréquentée par des gens très différents, parce qu'il y a des esthétiques au niveau musical très différentes, donc ça amène des publics très variés. Et puis sa spécificité aussi, c'est qu'elle fait beaucoup de travail en partenariat avec d'autres lieux, autant avec d'autres structures labels, comme le CNAREP ou la Coursive, ou le CCN, mais aussi des lieux plus petits, comme l'Horizon, qui est aussi sur le port, qui est un théâtre, comme l'université, qui a une salle culturelle aussi, comme des compagnies, et puis tout ce travail de formation des jeunes, d'émergence, en fait, artistique, à travers tous les studios qui est en bas, et puis toute cette volonté de toucher le plus de monde possible, que ce soit bien évidemment des professionnels très pointus, parce que c'est un label national et que dans le paysage national, la sirène compte énormément, puisque c'est vraiment un lieu où on peut voir toute la scène rock, musicale, musique actuelle de France. Mais en même temps, ce travail aussi en lien avec, comme aujourd'hui par exemple, on est là dans l'ouverture avec tout un tas de locaux avec des esthétiques très différentes qui viennent proposer leur création au public qui est là. Et puis plein de choses un peu borderline, un peu différentes, toujours d'avoir plein d'idées pour faire venir du monde, pas que sur la musique, mais aussi sur un jour il va y avoir une foire au disque, un jour il va y avoir, enfin plein de choses comme ça. Donc c'est vraiment l'idée de maillage, d'interface dans cette ville. Depuis que la sirène est là, ça a donné une impulsion. On attendait ça depuis si longtemps. Bon, ça fait un petit moment qu'elle est là maintenant, mais pendant des années, on en a parlé, on l'a désiré, et puis elle joue vraiment le rôle auquel qu'on imaginait, quoi, dont on rêvait, oui.
Et comme la sirène n'a pas fini de grandir et qu'elle nous réserve encore bien des surprises, un nouveau projet arrive et on espère qu'il prendra forme très bientôt. Mais en attendant, on vous en dévoile quelques prémices.
Au départ, on a constaté que notre clientèle vieillissait en fait. Hein. Quand les gens restent au concert pendant 3 heures debout, ben, y en a qui se plaignent, et ça je comprends. Donc il fallait une salle assise. Et donc le projet final, c'est de faire une salle assise. Une salle assise importante, hein, et avec des gradins rétractables, donc on peut faire une salle assise et une salle debout. Voilà. Donc capacité importante, technologie importante, tout ce qui va avec, quoi. Oui, alors ça dépend aussi de la décision communautaire. Hein. Notre projet est quasiment abouti pour nous, hein, les plans sont faits, etc., les désirs sont faits, mais c'est quand même une décision du conseil communautaire, c'est lui qui prend la décision. Alors on est arrivé quasiment au bout, hein. Nous on ne peut pas faire grand-chose de plus, on a même obtenu des financements extérieurs qui peuvent aider grandement le projet. Alors c'est pas, on n'occupe pas un local, on détruit le local d'à côté pour en refaire un nouveau, parce que je ne sais pas si tu en as parlé déjà avec David, mais enfin, le projet est à la limite plus important que celui-ci.
Évidemment, ce que je souhaite voir développer, c'est la troisième salle de la sirène, avec un plateau de dimension conséquente pour pouvoir accueillir des concerts de grande dimension avec une jauge plus importante, avec une jauge assise aussi, parce que maintenant, le public vieillissant, c'est un peu ce qui manque, mais aussi, surtout, pour pouvoir participer à la création dans le domaine des musiques actuelles, mais la création au niveau national, en accueillant des spectacles en pré-production de tournées importantes sur un plateau de la dimension qui va bien, et d'assurer un projet artistique et un projet économique en développement cohérent et évidemment plus important que ce qu'il est maintenant.
Besoin d'arguments pour venir ? Pas de problème, toute l'équipe de La Sirène vous en donne.
C'est un lieu de fête, donc si vous cherchez un lieu pour faire la fête, ben, venez faire la fête chez nous, vous serez bien reçus. Il y a carte des boissons qui est douce, il y a la possibilité de se restaurer sur place. Il y a un bâtiment qui vaut le coup d'œil parce qu'il est chaleureux. Il y a une équipe qui est plutôt souriante. Il y a une équipe de sécu qui est aussi souriante. Donc on se sent, je crois, en sécurité dans l'établissement. Et puis surtout, on a le droit d'aimer ou de ne pas aimer la musique qui est diffusée. Et puis on est toujours le bienvenu, en tout cas.
Après, c'est aussi vendre le lieu en tant que tel. Le confort, les bars, la terrasse, la proximité de la mer, le fait qu'on ne dérange pas les voisins. Enfin voilà, il y a plein de choses.
Il y a des bonnes choses à boire, il y a des bonnes choses à manger. Je crois que tous les trimestres, il y a toutes les esthétiques qui sont un peu représentées et il y a toutes les notoriétés. On va dire qu'il y a. Et en fonction de ce qu'on a envie, si on aime les concerts assis, il peut y avoir toujours au moins une fois dans le trimestre, au moins une formule un peu assise qui va être plus calme. Les gens qui veulent danser, je pense qu'ils peuvent avoir leur lot de surprises aussi. Et il n'y a pas que les grosses têtes d'affiche. Voilà, y a de tout et c'est un lieu qui est beau, qui est riche.
Il n'y a pas de frein. Je pense qu'il n'y a pas de frein. Il faut juste avoir le courage de franchir cette espèce de... de grande entrée avec cette espèce de bâche qui est vraiment imposante, où on a l'impression, peut-être pour la première fois quand on rentre, de se faire manger. Mais justement, c'est là qu'est le plaisir, c'est de prendre ce risque-là, non, mais de tenter, de se faire manger. Et puis après, les gens, quand ils passent la porte, ils sont forcément conquis, moi, je pense.
Oui, on ouais. pense aussi.
En fait, ici, c'est une vraie petite vie qui se passe. Donc, on y travaille, on y mange, on y fait... Enfin, les artistes, ils lavent leurs affaires. On dort, pour certains, sur les tourbus. Enfin, voilà, en fait, il y a une vraie activité qui ressemble aussi à celle du quotidien. Il y a un petit plus, forcément, c'est la partie artistique. Et je rejoins Benoît. Il faut s'y frotter au live pour pouvoir vraiment s'embarquer dans des aventures comme celle-ci. Mais voilà, en fait, c'est comme partout. Alors, c'est pas toujours évidemment le quotidien de chacun. C'est notre quotidien, on a envie de le faire partager. Et en fait, c'est de l'humain. Donc, on a juste à discuter ensemble, juste à s'expliquer ce qu'on fait. Et en fait, ça va bien se passer.
Merci beaucoup.
Agent Crawford pour la halte. Est-ce que vous me recevez ? Ici l'agent Crawford. Tiens, la halte. J'ai envie de vous dire. Halte là.
Merci d'avoir écouté ce troisième épisode de La Halte. La tournée continue et on se retrouve dans quelques semaines pour une nouvelle destination et un nouveau lieu. Merci à La Sirène pour l'accueil, merci à Saint Graal pour la musique et son encouragement pour le projet. Et pour suivre l'intégralité des épisodes, rendez-vous sur les plateformes d'écoute et sur quartier-libre.eu. Et si vous avez envie de suivre le voyage radiophonique, rendez-vous sur Facebook et Instagram en cliquant Quartier Libre. En attendant le prochain épisode, je vous dis à très vite.
Si vous aimez,
suivez-nous,
likez,
partagez
et faites-nous vos retours.